Donc 23 mars à l'espace multimédia Gantner, nous retrouvons Guillaume et Alexandre qui étaient présents jeudi soir pour la soirée Fabrica. Et puis l'idée de cette petite rubrique donc, de collecte de conseils, avant donc de vous demander peut-être un conseil de lecture, d'abord en quelques mots, d'où est venue cette idée de cette machine, de cette presse vélo, enfin je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, que vous avez présentée dans Fabrica. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu savoir rapidement, d'abord un diplôme de l'un de vous et puis après un duo, un collectif qui est né.
C'est ça. Alors, donc moi, je m'appelle Guillaume André. Donc ce travail-là, en fait, il est issu d'un travail de recherche que j'avais fait dans le cadre de mon diplôme de... C'est un diplôme supérieur d'art appliqué, option communication visuelle, que j'ai fait à Marseille, au lycée Saint-Exupéry. Donc c'est, voilà, c'est un travail que j'ai présenté lors de mon diplôme. Suite à quoi, je suis venu à Besançon pour intégrer les Beaux-Arts de Besançon, l'ISBA, où j'ai rencontré Alexandre. Et donc on a décidé de s'associer, puisqu'on avait des intérêts communs au niveau du travail. Cette machine a été présentée ici à Fabrica Voxa dans le cadre d'un événement de performance qui collait bien à l'intention première du travail, puisque ce travail-là, d'abord, c'est une manière d'interroger la capacité du designer parfois à se concevoir ses propres outils, et d'autre part, c'est une manière d'interroger le processus de création d'images et d'impressions en tant que performance. Donc ça collait assez bien à l'événement Fabrica Voxa. D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir accueillis ici. Et voilà.
D'accord. Est-ce que tu veux aussi peut-être ajouter justement un mot sur la performance, enfin l'un de vous, effectivement c'était en continu hein, pendant la soirée, et donc il y a eu une production de diverses affiches.
Voilà, de divers visuels. Oui, en fait, le dispositif, à chaque fois qu'il a été présenté, il propose d'abord de créer un visuel associé à l'événement où il est présenté. Donc lorsque, par exemple, il a été présenté au Puce typographique à Bagnolet l'an dernier, c'était un visuel avec écrit les puces qui étaient produits. Et ici, donc, à l'événement Fabrica Voxa, c'était une affiche avec quatre lettres, donc Voxa, qui est une manière aussi de créer l'affiche de l'événement pendant l'événement. Donc ça interroge un peu aussi les conditions de production des images liées à des événements, puisqu'en général, les images sont produites avant l'événement. Là, elles sont produites pendant l'événement et avec la participation, volontaire ou non, du public. Là, c'était assez intéressant puisque l'espace qui nous était prêté nous a permis aussi d'envisager notre performance, vu qu'elle a été sur le temps d'une soirée, comme un espace de création frénétique d'images. Donc l'idée, c'était de recouvrir les trois murs qui nous entouraient du plus d'images possible pour passer d'un espace plutôt raisonné, plutôt ordonné, à un espace volontairement chaotique où les affiches dégoulinent, vu que le dispositif ne crée pas des résultats qui sont ceux que seraient ceux d'une imprimante de bureau. Pas du tout, c'est un dispositif très précaire, avec des résultats qui dérapent, qui déraillent, qui sont accidentés, mais qui sont liés au dispositif. C'est aussi une manière d'interroger sur ce qu'est une bonne image, une image maîtrisée. Et donc l'idée, c'était d'envahir l'espace de manière frénétique, comme une espèce d'industrie, de micro-industrie, le temps d'une soirée, pour avoir tout d'un coup cet espace très expressif, avec de l'encre qui dégouline de partout, avec nos combinaisons qui étaient donc souillées par la peinture, parce que c'est une machine assez salissante, quoi. Et voilà, donc c'était vraiment l'idée de cette soirée-là, c'était d'investir vraiment l'espace.
Alors maintenant, j'aurais aimé aussi peut-être un conseil, puisqu'ici, donc, dans la médiathèque, on documente depuis un certain nombre d'années un certain nombre de domaines. Conseil de lecture d'un penseur ou d'un artiste qui vous aurait influencé dans ce travail. Et puis peut-être aussi, en question bonus, une réaction, puisque j'ai discuté avec l'un de vous donc déjà jeudi, et qui, je crois que c'est toi qui m'as dit que vous aviez participé aux rencontres de l'URSS, oui. Qui est un festival assez emblématique pour les typographes. Donc je ne connais que de nom, mais donc peut-être évoquer ce lieu qui est assez mythique pour y avoir été.
Les rencontres de l'URSS, c'est un événement donc, qui a lieu une fois par an dans le petit village de l'URSS, dans les Alpes-de-Haute-Provence. C'est historiquement un événement très, très typographique pour les experts en typographie, ce qui a un peu évolué avec le temps, sachant que depuis 3-4 ans maintenant, les rencontres invitent des philosophes, des sociologues, des chercheurs en numérique, des typographes confirmés, purs et durs, des graphistes, on va dire, pluridisciplinaires, qui travaillent aussi bien la typographie que l'affiche, que l'édition, des philosophes, des étudiants, voilà. Et il y a toute une programmation sur une semaine, avec un thème qui dirige un petit peu chaque intervention. Et lorsque moi j'y avais été invité, donc c'était suite à mon diplôme, et en fait le thème qui était posé, c'était le thème de l'amateur. Et la figure de l'amateur est une figure qui revient souvent maintenant, depuis maintenant une dizaine d'années, dans le cadre des pratiques dites d'amateur. Alors non pas amateur au sens de quelqu'un qui ne connaît pas, mais amateur quelqu'un qui aime. Qui aime ce qu'il fait et qui s'y investit corps et âme. Et donc cette édition-là m'invitait moi à présenter cette machine, vu que cette machine rentre totalement dans le cadre d'une pratique d'amateur. C'est pas un travail d'ingénieur. Faire une machine, a priori, c'est un travail d'ingénieur. Ici, c'est pas du tout le cas. Et donc d'ailleurs, en fond, on va dire, théorique de ce travail-là, nous, avec Alexandre, cette année, on a décidé de faire un travail de diplôme en commun, qui interroge les économies dites collaboratives et contributives, où les pratiques d'amateurs sont totalement impliquées, sont au cœur de ces processus. Donc on a fait un travail d'écriture de mémoire à quatre mains pour interroger un petit peu ces économies qui jusqu'à présent étaient considérées comme alternatives, qui deviennent majeures et soutenables, qui deviennent vraiment crédibles. Et donc c'est important d'abord pour nous d'en parler, parce qu'on estime que c'est pas assez fait par les, on va dire, les médias traditionnels, et que c'est un des enjeux majeurs des années à venir. Donc si on peut donner quelques conseils de lecture, tout d'abord des philosophes, Bernard Stiegler, qui est un des penseurs majeurs d'abord des économies dites numériques, qui interroge le numérique en lien avec la question de la technique et de sa relation à la société. Jérémy Rifkin, un penseur américain, qui pose les bases déjà il y a plus de 10 ans maintenant, posé les bases avec
la fin du travail,
l'âge de l'accès, voilà, où il interrogeait finalement comment les entreprises allaient se réinventer totalement avec l'outil Internet. On voit qu'aujourd'hui Internet maintenant est partout, qu'il modifie de fond en comble les structures de notre société, y compris les champs artistiques. Donc Jérémy Rifkin, d'abord, c'est quelqu'un qui d'une certaine manière fait un travail prospectif et qui avance des scénarios sur comment Internet, le Web 2.0 et bientôt le Web 3.0 vont transformer la société et d'une certaine manière nous donne des espoirs, quoi. Et puis Michel Bowens, qui est en fait un ancien bibliothécaire et qui était directeur du e-marketing, je crois, dans la société Belgacom, qui est un peu l'équivalent Wanadoo belge. Qui lui aussi a très vite saisi les enjeux des logiques du peer-to-peer, qui est un terme issu de la culture web, qui signifie à la base qu'un ordinateur, un poste informatique peut à la fois être serveur et à la fois distributeur, enfin receveur et serveur, distributeur. Et qui en fait montre que la logique du peer-to-peer, qui est d'abord liée à l'univers des hackers, à l'univers du piratage, est en train d'irriguer de fond en comble la société, de pousser tout ce qui structure une société à se réinventer sur cette logique du peer-to-peer. Au milieu de ça, il y a toujours cette question de l'amateur qui est centrale, vu que en fait ces économies dites collaboratives, contributives, de peer-to-peer reposent avant tout sur des citoyens qui s'intéressent à ce qu'ils font, contribuent par leur passion à un savoir commun, ce que Michel Bowen appelle des commons, d'où par exemple le terme de Creative Commons, qui est une structure juridique qui protège justement les œuvres, ce qu'on appelle du libre. Donc ça, c'est plutôt dans le registre théorique. Après, dans les économies numériques, il faut absolument aller voir le travail de Richard Stallman, qui est un des fondateurs de GNU, qui est celui qui a conçu la Free Software Foundation, qui s'occupe justement de protéger les œuvres destinées aux économies du libre, qui est un penseur fondamental aussi pour comprendre ce que c'est le logiciel libre et pourquoi c'est important d'y contribuer et d'imaginer ce que peut devenir le libre en dehors du strict développement de logiciels. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement tout un tas de designers qui interrogent aussi leur pratique, sachant que la question qui se pose, c'est si le designer a contribué à l'essor de l'économie capitaliste et consumériste, comment il peut contribuer d'abord à la sortie de cette économie-là, et comment il peut se réinventer dans des économies dites collaboratives et contributives. Et donc, il faut aller voir, par exemple, en design, le travail de Jersey Seymour, qui est un designer qui interroge tout à fait ces pratiques de l'amateur. Il faut aller voir le travail de Open Source Publishing en design graphique. Voilà, des références, on peut en trouver aussi à travers justement les écrits de Bernard Stiegler, Michel Bowens, Jérémy Rifkin.
Très bien, en tout cas merci beaucoup parce que c'est vraiment l'idée de cette rubrique, de collecter comme ça des petits rebonds. Et puis moi je voulais vous faire partager, c'est peut-être pas la citation précise mais vous la connaissez sûrement, cette pensée de Satie qui dit « seul le véritable artiste est amateur ».
Tout à fait. Satie qui était proche de John Cage d'ailleurs, enfin John Cage qui est assez proche de l'œuvre de Eric Satie, et John Cage qui est en fond de toute cette économie du libre et des œuvres dites ouvertes, Umberto Eco, etc. Enfin, voilà.
Très bien. Merci à tous les deux pour cette petite échange comme ça impromptu au moment après le démontage de votre installation ici à l'espace.
Merci à vous pour l'accueil.